feeling like you got a feeling that things will be different and changed now. I put the other shit all in the past. I was hoping that you do the same now. I told them all that I'd do it and then I did it. Stuffing all the rocks in the Louis bag and they fitting in it. Cause sunflower shells is what be sitting in it. This my story and I love the shit that's written in it. Come give me that coochie, baby. I've been thinking about you lately. You is not a groupie, baby. I don't hang with goofies, baby. Ride like a Suzuki, baby. Handlebars, I handle stars, I'm spooky, baby. Touching on my toolie, baby. Like an ice cream cone, the mall can scoop me, baby. Life is like a movie, baby. Every day a different way to shoot it, baby. Makes me like a smoothie, baby. I've been in this, do I gotta do.
Salut, ici Matt Track, vous écoutez CKUT 90,3 FM.
The following is a previously broadcast program.
Écoutez le magazine Dignité Noire, présenté par Mbayaji Mbayriway. Au sommaire.
Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Dignité Noire sous CKIA 88.3 FM. Nous sommes le 20 juin 2022, à un jour de l'été. Il commence à faire beau. On est heureux quand il fait beau. Alors, mon nom est Mbaye, je suis avec vous jusqu'à 20h en compagnie de mon fidèle compagnon, Brice. Brice, comment ça va?
Ça va.
En forme?
Très en forme.
Comme tu veux?
Oui, oui, exactement.
Oh, maintenant, je suis content, là. Quand tu vas bien, je suis content. Ça veut dire qu'on aura une très belle émission. Alors, je rappelle que vous pouvez nous suivre sur 88.3 FM, ainsi que sur notre page Facebook, Dignité Noire-CKIA FM. Merci beaucoup. Nous avons, Brice, nous avons presque 2000 personnes qui nous aiment. Ça fait du bien d'être aimé.
Bravo, bravo, bravo à tous ceux qui nous suivent.
Merci beaucoup à vous. 2000 merci pour nous aimer. Ça fait 3 ans que nous existons. Ça veut dire que vous nous aimez bien. Bah, on aurait aimé avoir 3000 likes pour 3 ans. Mais bon, 2000, on s'en contente. Alors, vous pouvez aller sur notre page Facebook Dignité Noire-CKIA FM. Vous pouvez suivre l'émission là aussi en vidéo, là, sur notre page Facebook. Si vous manquez nos émissions, ce n'est pas grave. Elles sont toutes archivées en balado sur www.ckiafm.org. Pour ceux qui sont loin, qui n'ont pas accès à Facebook, par exemple, ou qui n'ont pas la page Facebook, parce qu'il y a du monde qui n'en a pas encore, vous pouvez aussi nous suivre en direct sur notre site internet aussi, hein, www.ckiafm.org. Donc, nous sommes partout sur toutes les plateformes sociales là, de CKIA, donc vous pouvez nous suivre. Ça, c'est l'avant-dernière émission là aujourd'hui. Alors, on va avoir du plaisir à recevoir deux belles personnes qui vont nous parler un peu de plein de choses. La semaine prochaine, j'ai l'idée là de faire une petite émission sur les jeunes. On avait fait une émission sur les femmes en Afrique, en particulier au Tchad. On va faire une émission sur l'engagement, la conscientisation politique des jeunes au Bénin cette fois-ci. On va aller chez Brice là, hein, dans son pays d'origine. On va recevoir un activiste là-bas. Si tout se passe bien, nous allons le recevoir lundi prochain. Mais d'ici là, on a deux personnes aujourd'hui. La première personne, c'est une maraîchère qui est installée très loin en Abitibi. Donc, c'est dans le cadre des émissions que nous faisons sur les fermiers et les maraîchères et maraîchers noirs de Québec. Donc, on va la recevoir tantôt, tout de suite après cette introduction. Et après, je reçois un jeune chercheur qui vient de publier un article très intéressant dans le dernier numéro de la revue Relations sur les coups d'État en Afrique, la France-Afrique des coups d'État. Ainsi s'intitule son article. Il s'appelle Armel Brice Simeux. Brice, un de tes homonymes, là, qui a écrit. On va le recevoir tantôt. Alors, son article s'intitule La France-Afrique des coups d'État. Parce que depuis un an ou deux ans, il y a beaucoup de coups d'État en Guinée, au Mali, au Tchad, au Burkina Faso. Fait qu'il va, je l'ai invité pour nous en parler. Moi, j'aime beaucoup parler de politique, en particulier de politique africaine. Donc, je veux le recevoir tantôt pour en discuter avec lui. Ça va être très passionnant. C'est rester à l'écoute. Mais, tout de suite, je vous amène à Abitibi. Hein, c'est à 8h d'ici. Mais avec Dignité Noire, ça va très vite, là. On est en onde, ça va très vite. Alors, je vous amène à Abitibi. rencontrer une grande dame qui fait de belles choses là-bas. Bonsoir, madame Dakuyo.
Ah.
Comment allez-vous?
Oui, ça va bien, et vous?
Oui, oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je rappelle que vous êtes la troisième personne qui travaille la terre au Québec d'origine afro. Quand je dis afro, c'est africaine ou caribéenne. Donc, c'est un projet que nous caressons depuis quelques années, 2 ans, de faire une série sur les fermiers, les fermières afro-québécoises. Donc, ce mois de juin, on s'est fait ce plaisir. Là, c'est notre dernier mois. Alors, vous comptez sur les bouts des doigts, hein, les personnes d'origine noire qui font des... qui font la culture maraîchère ou la ferme. Mais on se rend compte que bon, vous êtes des pionnières, là, des pionniers, vous commencez à investir la terre. Alors nous avons fait le choix de vous présenter vos parcours aux gens qui nous écoutent. Et peut-être que parmi notre auditoire, il y a des jeunes ou des personnes adultes qui vont se découvrir une vocation d'aller travailler la terre. Alors vous êtes originaire du Burkina Faso, vous êtes installé à Colombour, dans la MRC d'Abitibi-Ouest, où vous êtes propriétaire des potagers du Pouce Vert, une entreprise maraîchère certifiée biologique par Ecocer Canada. Madame Dakuyo, ça fait combien d'années que vous êtes à Abitibi là? C'est quand même loin d'ici. Burkina Faso, Abitibi, c'est pas près là.
Je suis arrivé en 2012 en Abitibi.
Ok. Comment ça? Oui, allez-y.
Je vais rectifier quelque chose vite fait. Il se pourrait qu'il y a de quoi qui n'a pas été corrigé sur mon profil.
Oui.
Pour la certification biologique, ça fait 2 ans que je ne suis plus certifié.
Ah, ça c'était
parce
avant.
Ça me prend trop de paperasse. Je passe plus de temps dans les papiers que dans mon champ. Je trouve ça, vu que je suis quasi presque toute seule.
OK.
Et que je ne peux pas me le permettre.
Parfait. Donc on rectifie ça. C'était bon. Nous sommes tombés sur les vieux articles sur vous, là.
Oui, mais j'ai été certifié pendant un bon moment, en tout cas.
D'accord. Rectification faite.
Oui.
Donc, comment vous vous retrouvez à Abitibi, là, si loin de la ville de Québec, en tout cas?
Oui, j'ai rencontré mon conjoint en Afrique.
OK.
Et étant venu en Abitibi, le but, c'était pas de rester ici.
Ouais.
Mais... lui, dans son travail qu'il faisait là-bas, il y a eu des coupures, fait que on était obligé de rester en Abitibi.
Donc, comme on dit, qui prend mari prend pays.
Oui, c'est ça.
Alors, comment ça s'est passé? Bah, j'imagine quand même, là, vous, Burkina Faso, c'est un peu... Moi, je viens du Tchad, donc nous avons la même température, là, dans le fond. C'est tout un autre environnement. Vous venez ici, en Abitibi, c'est vraiment une rupture. Au début, c'était comment? Aviez-vous le goût de repartir à Ouaga?
Ah oui, j'ai eu beaucoup de misère, j'ai quand même eu pas mal de misère, mais ça n'a pas été long parce que je suis arrivé en 2012, puis fin 2014, je commençais déjà à tâter le terrain.
Ah oui?
Oui.
Mais est-ce qu'au Burkina, vous faisiez déjà ça? Parce que j'imagine, voilà, vous arrivez oui, 2 ans après, vous faisiez ça. Est-ce que vous étiez déjà fermière là-bas, maraîchère?
Ben, je suis née dans une famille... je peux dire, papa, c'est fonctionnaire, mais agriculteur en même temps.
Okay.
Et c'était un formateur en agriculture. Il a formé beaucoup de couples dans l'agriculture.
Okay.
Puis moi, j'ai eu la chance de travailler à ses côtés. Puis j'ai appris à côté tranquillement.
Okay. Donc,
mais ça n'a rien à voir avec l'agriculture en Abitibi. C'est vraiment différent parce que les températures sont pas... c'est pas la même chose. Ça veut dire on arrive, on recommence à zéro.
OK. Ben vous-même, est-ce que vous aviez suivi des formations en agronomie, des choses comme ça?
Non.
Ah, vous avez appris sur le tas, là?
Oui, j'ai juste appris avec papa.
OK, parfait. Fait que là, vous arrivez Burkina Faso, vous arrivez là-bas, vous vous lancez dans le travail de la terre. Comment les gens vous voyaient là-bas? On va dire, mais celle-là, elle sort d'où? Est-ce que les gens se questionnaient sur qu'est-ce qu'elle vient faire ici sur la terre, tout ça là? Parce que bon, c'est pas courant. C'est pas courant de voir un immigrant embrasser la terre ou une immigrante embrasser la terre là.
J'adore déjà travailler la terre avant d'arriver ici. J'ai toujours toute petite, suivais les grands frères au champ. Après ça, j'ai grandi, les petits frères, on se suivait au champ. Fait que j'adorais déjà travailler la terre, c'est ma passion. Okay. Mais une fois arrivé ici, je demande à mon conjoint, je dis, moi je veux continuer dans ce que je sais faire le mieux que je faisais déjà en Afrique. Et que lui me dit, ma belle, c'est pas comme en Afrique. Ici, ça prend des millions pour faire un chant. Fait que je t'ai découragé. Et je me dis, waouh, ça veut dire je pourrais pas réaliser ce rêve-là. Mais au bout, ça c'était en 2000, je suis arrivée en 2012, ça c'était en 2013. Mais en fin 2014, je le dis clairement, je dis, monsieur, on vient de déménager, j'ai un grand terrain. Je dis, pas vrai que ça prend des millions en Afrique pour faire un chant. Ben, je veux le faire de la même façon. Puis j'ai commencé tranquillement en 2014, puis en 2015, je partais déjà à l'estimie, les voisins étaient venaient me dire, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, mais je vais me faire un jardin. Oh, ça ne marche pas ici, c'est trop froid, nous ne sommes pas en Afrique. J'ai dit, mais je vais essayer. Puis en fin 2000, à la fin de la saison, les gens venaient, mes voisins venaient voir le chant, ils disaient, waouh, c'est un chant de miracle.
Waouh.
Ça avait quand même marché, j'ai donné le goût quand même à mes à beaucoup de voisins présentement qui font des jardins, qui ne faisaient pas de jardin avant, mais qui ont commencé à faire des jardins.
Ok. Mais là, qu'est-ce que vous cultivez dans votre maraîchage là? Est-ce que c'est les légumes, les fruits d'Afrique ou d'ici? Qu'est-ce que vous cultivez en général?
Je fais un peu de tout. On va avoir... j'ai des serres. Mais avant d'avoir les serres, je faisais des affaires de champ.
Ok.
Mais on va avoir de la tomate. Je vais plus dans les ancestrales. Parce que c'est plus goûteux. On va avoir des tomates, de grosses tomates, des tomates cerises, des poivrons, des aubergines, concombres. Puis je vais avoir... je fais aussi de l'okra, je fais des aubergines africaines. Puis, les légumes fruits, ça c'est plus pour moi, de l'amarante... puis d'autres légumes fruits de l'Afrique, parce que ici, les gens ne connaissent vraiment pas ça.
Mais vous parlez d'okra, l'okra, c'est le gombo, là.
Oui, l'okra, c'est le gombo.
Est-ce que les gens de là-bas, ils mangent ça, ils connaissent ça, ou est-ce qu'il y a une clientèle immigrante là-bas?
Au début, ils ne savaient pas c'était quoi, mais là, ils commencent tranquillement. Il y a des années où j'en fais juste pour moi, okay. Mais j'ai de plus en plus de clientèle qui me le demandent, et qu'ils commencent à savoir c'est quoi.
OK. Pour les gens d'Abitibi qui vont tomber sous cette entrevue, il faut goûter au okra. C'est très bon. Moi, j'en mange deux fois par semaine. Là, même, c'est minimum. Là. J'adore ça, moi. Je peux manger ça tous les jours.
Oui, c'est très bon. Oui.
Parfait. Donc là, vous arrivez là-bas, vous avez commencé cette activité. Je rappelle que moi, j'ai lu un article en faisant la recherche sur vous. Là. Votre programme, c'est vous commencez à 5h30 et vous finissez à 23h30. Pratiquement, avec 4 enfants ou 5 enfants. Hein. Comment vous vous organisez?
J'ai deux enfants ici.
Oui.
Puis, c'est intense.
Non, deux sont avec vous ici. Oui. Mais là, vous commencez à 5h30 jusqu'à 23h30. Quand quelqu'un, admettons là, que quelqu'un nous écoute là, qui veut faire le travail de la ferme là, et
ça,
puis...
c'est juste parce que je voulais cacher la, je voulais pas trop abuser.
Oui.
Sinon, je sais que des fois, je me couche à 1h du matin.
Waouh. Mais ça, c'est dissuasif, ça. Admettons un jeune qui va aller embrasser le travail de la terre, ça, c'est dissuasif. Hein? Comment vous organisez votre travail de fermière, parce que ça prend du temps. Vous êtes maman, épouse en même temps. Comment vous jonglez ça, là, votre... Comment on s'organise quand on embrasse le travail de la terre?
J'ai déjà eu à dire à des gens qui m'ont posé la question. Le DC, on commence et puis on se dit, je vais me faire beaucoup d'argent en allant cultiver la terre. Je dis, si c'est juste pour ça, oublie ça. Faut d'abord aimer ça. Quand on aime ça, après ça, l'argent vient après.
Okay.
Mais si l'objectif premier, c'est d'aller se faire beaucoup d'argent, on va se décourager au début, parce qu'au début, c'est pas rentable. Mmh. Parce que ça prend de l'investissement, et qu'on ne voit pas la rentabilité, ça prend beaucoup d'énergie, tout ça. Mais après ça, tu vas pouvoir en profiter de ton investissement parce qu'il n'y a plus d'investissement à faire. Tes revenus, c'est ça.
OK. Mais là, est-ce que vous n'êtes... j'imagine, au début, vous étiez seul, mais avec le temps, est-ce que vous avez pu recruter du monde pour travailler avec vous?
Oui, les 3 dernières années, j'ai eu des employés, mais cette année, c'est vraiment compliqué. Là. J'ai eu personne pour le moment. Le seul que j'ai eu, il va arriver le 27.
OK. Oui, mais
depuis le début, je suis en train de courir toute seule.
Ouais, donc la pénurie de la main d'œuvre vous affecte aussi, là?
Oui, pas mal.
Alors, mesdames et messieurs, je suis avec Madame Christine Dakuyo, qui est originaire du Burkina Faso et maraîchère en Abitibi. Alors, je vous amène en Abitibi aujourd'hui pour parler d'elle, parler avec elle de son parcours et de son entreprise agricole. Alors, là, vous produisez des choses d'ici d'ailleurs, du Burkina aussi. Comment vous écoulez ça? Est-ce que vous vendez sur les marchés publics, sur des étals, ou est-ce que vous distribuez aussi dans les magasins là-bas? Comment vous vendez vos produits là?
Mes produits, présentement, j'ai commencé par un petit marché public pas loin de chez nous.
Okay.
Que des voisins m'ont proposé. Au départ, quand j'ai fait la production, je ne savais pas vraiment comment j'allais m'y prendre. Mais j'ai des voisins qui ont vu finalement que oui, elle était vraiment au sérieux. Ils m'ont dit, il y a un petit marché à côté, tu pourrais y aller. Parce qu'une fois au marché, j'ai eu du bon monde qui m'entourait, qui me dit, c'est pas le seul marché, hein. Il y en a d'autres. Parce que j'ai pris les coordonnées de tous les marchés d'Abitibi. J'ai appelé un peu partout. Ils m'ont ouvert les portes. J'ai pas eu beaucoup de misère à faire ma place. Pas du tout. Parce que c'est parti comme ça. Et puis j'agrandis chaque année. La demande est là. Je fournis même pas.
Ok. Mais là, est-ce que vous distribuez aussi dans les grosses épiceries? Je ne sais pas si Metro ou IGA là-bas.
Oui, j'ai distribué au IGA un bon moment, mais vu la demande que je pouvais pas, fournir, désolé, vu la demande que je pouvais pas fournir, j'ai dû arrêter avec la IGA pour le moment.
Donc,
je
c'est quand même
avec un autre petit marché à côté et un petit. Une place plus petite à côté.
Donc, vous avez quand même, il y a la demande, les gens, vous avez la demande locale, là. Est-ce que...
Oui, la demande est là.
Est-ce qu'il y a des projets d'agrandissement de votre ferme aujourd'hui, là? Je ne sais pas si vous voyez grand, là, dans quelques années.
Oui, il y a des projets d'agrandissement, mais pour le moment, on se limite à ça parce que la main-d'œuvre, c'est compliqué.
Okay, je
trouve que quand c'est trop grand pour juste une personne, c'est une perte de temps. On court un peu partout, pour rien. Okay. Parce que l'idéal, de laisser ça un peu à ma capacité, et puis après ça, on verra quand on aura du monde, d'ailleurs.
Ouais, c'est ça. La main-d'œuvre, là, ça frappe tout le monde. Ici, à Québec, il y a des restaurants qui ferment. C'est terrible. Là. On le voit, là, tous les jours. Mais là, c'est intéressant, quand même, ce que vous dites, parce que vous dites, vous arrivez du Burkina Faso, vous êtes bien accueillis en Abitibi, et puis là, vous partez votre entreprise agricole, et il y a la demande. Fait que ça, c'est intéressant, quand même, pour les immigrants qui s'agglutinent, qui se concentrent beaucoup à Québec, Montréal, là. Puis là, le gouvernement parle beaucoup de régionalisation, de l'immigration. Fait que moi, je dis, là, les régions du Québec, c'est des belles régions. Là. Franchement, là, moi, j'aime beaucoup. En été, j'aime aller visiter les régions. Là, c'est de belles régions. Donc, pour ceux qui veulent aller en région, là, je pense que c'est un bon projet. Là. Mais là, admettons quelqu'un de Québec ou Montréal qui va aller là-bas s'installer ou faire de l'agriculture, là, à quoi il doit s'attendre? Admettons, moi, je suis à Québec, là. Moi aussi, j'aime la terre. Mmh. J'aime beaucoup travailler la terre. Admettons que j'ai dit, moi, je suis fatigué de rester dans un bureau. Je vais aller en Abitibi faire le travail de la terre comme Madame Dakuyo. Quels sont les premiers défis là, pour quelqu'un qui débarque comme ça là-bas? À quoi il doit s'attendre? À part les mouches, là, on en avait parlé hors antenne. À part les mouches en Abitibi.
Oui, il y a beaucoup de mouches en Abitibi. Il y en a toutes sortes de mouches en Abitibi.
Quels sont les défis comme ça pour un immigrant qui arrive, qui veut travailler la terre en région, admettons?
Il y a quelque chose dont je n'ai jamais parlé. Mais je vais profiter de votre antenne pour parler de ça aussi.
OK.
Mais il se pourrait que les personnes qui viennent par ici, qui aimeraient, si la personne n'est pas comme moi, parce que moi, je n'ai pas été trop loin à l'école. Puis ici, ça prend plus côté niveau intellectuel. On y va avec côté intellectuel.
Okay.
Parce que il y a des subventions de démarrage qui sont données pour ceux-là qui veulent faire la production dans l'agriculture. Mais moi, j'en ai pas eu. J'ai dû me débrouiller toute seule pour démarrer mon projet.
Okay.
Parce que si la personne est chanceuse que à un certain niveau, il pourra avoir accès à ces subventions-là. Ça, ça lui donne déjà une bonne chance.
Okay.
Pour découler. Fait que le problème qui va se poser, c'est le problème de financement. Avoir l'équipement nécessaire, parce que ça prend, il fait froid, ça prend des couvertures pour cacher au début. Mm-hmm. Puis ça prend de l'argent pour acheter cet équipement-là. Okay. C'est que le premier problème qui va se poser, c'est le financement. Mais si tu as tout ça, je te dis que je dis à la personne, tu vas y arriver.
Ok. C'est important parce que j'avais reçu déjà deux fermiers, là, maraîchers aussi, l'un d'origine haïtienne, l'autre du Togo. Et ils sont installés dans les cantons de l'Est, en Estrie. Puis eux, ils m'avaient dit justement qu'en Estrie, il y avait un programme qui nous a aidé à reprendre des terres, à louer des hectares. Là. Donc il y a des programmes d'aide, comme vous dites, là, il y a des programmes d'aide en région qui donnent un petit coup de main là, aux personnes qui veulent travailler la terre. Fait que ça, c'est important ce que vous dites là. S'il y a des gens qui ont des projets comme ça.
Il y a des places qui vont aider.
Oui.
Il y a des places qui vont aider,
okay.
Mais ce n'est pas partout.
Okay.
Moi, j'ai dû faire mes preuves. Après ça, la SADC a vu que oui, elle était vraiment... Enfin, deux ans après, la SADC s'est engagée.
La SADC, c'est quoi ça?
La SADC, stratégie et... comment? Bon, c'est un organisme qui aide les jeunes à...
Ah, ok, d'accord.
Au développement pour... réaliser leur projet.
Ok, là-bas, en Abitibi.
Oui, okay. Mais je pense qu'il y en a un peu partout au Canada, la SADC, elle est un peu partout.
Ah, ok, d'accord. Mais ça, c'est intéressant quand même. Ce que vous dites là, c'est important. Il y a des fonds pour aider. Puis quand on va aller en région, il faut se renseigner un peu là-dessus. Là.
Oui, mais ces fonds-là, ce n'est pas donné, ce n'est pas gratuit. Tu vas le rembourser comme des prêts, mais c'est vraiment, ce que je peux dire, c'est abordable quand même.
Ok.
Ou ton paiement, ils sont compréhensifs. Comme au début, ça peut arriver un mois que tu peux pas payer, puis tu le dis un mois d'avance, ils vont te le reporter peut-être le prochain mois. Parce que c'est quand même abordable.
Parfait.
Et quand... Oui, c'est ça.
Bah, merci beaucoup.
Le taux n'est pas élevé.
Ok. À part le financement, est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles on doit faire attention si on veut aller s'installer en région pour faire le travail de la terre?
Bah, le travail de la terre en région, que ce soit ici ou ailleurs, en Abitibi, par ici ou quelque part d'autre, moi je pense que c'est plus le début de saison et la fin qui est un peu compliqué à cause du froid.
Okay,
parce qu'on a eu un gelé avant-hier.
Oui.
On a dû courir jusqu'à 2 heures du matin pour cacher les affaires.
Okay.
À 2 heures du matin, on était encore dehors.
Wow.
Pour couvrir.
Wow.
Et que c'est ça. Faut aimer ça, sinon on regarde ça et puis on dit je vais me coucher, je laisse ça là.
Ouais, je comprends. Ben beaucoup, vraiment, vous êtes une battante, moi. Vous êtes inspirante, là, madame. Alors, il y a beaucoup de gens qui nous suivent, hein, les gens de Guinée, comme Amadou Diallo, un ami qui est en Guinée, madame, c'est pas une dame là qui est à l'île Maurice, qui a l'organisme d'échange au féminin. Alors, les gens vous écoutent, vous inspirez pas mal du monde. Mais là, après 7 ans, là, ça fait, vous avez commencé en 2013 ou 15, là, après 7 ans, est-ce que aujourd'hui, vous vivez de votre activité? Est-ce que, voilà, je veux dire, l'argent rentre un peu, vous êtes un peu à l'aise quand même financièrement? Est-ce qu'on peut vivre de ça, là, après 7 ans?
Je suis gourmande.
Bon, donc, ça veut dire que c'est bon, il y a l'argent.
je suis gourmande.
Ah, vous-même, vous mangez?
Je pourrais vivre de ça, je pourrais vivre de ça,
oui.
Mais j'investis. Mais c'est ma dernière année d'investissement, c'était l'année dernière. Je me suis fait une cuisine de transformation. En fait, une cuisine de transformation, on n'a pas encore fini, il me reste un peu à terminer.
Donc, vous transformez aussi vos produits vous-même?
Oui, parce que en début de saison, on peut avoir un peu trop.
OK.
Vu que les marchés publics n'ont pas encore commencé. Ça, c'est des produits. Au lieu de les perdre, on peut les transformer. À la fin, après, les marchés publics, on en a comme un peu trop. On ne veut pas courir un peu. Fait qu'on fait toutes ces transformations-là.
Oh.
Puis après ça, on entame les marchés de Noël avec nos transformations.
Là, vous embouteillez, vous mettez dans des canettes ou comment ça se fait? Comment vous conservez ça?
Oui, on met tout dans... On embouteille tout.
Ah oui?
Ouais.
Ah, waouh! Donc, vous faites la culture, vous faites la transformation. Waouh! Mais j'aurais aimé, si vous étiez à côté, j'aimerais goûter à vos produits transformés, là. Mais on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, je vais arriver là-bas et puis je vais goûter à vos produits. Ah, mais ça, c'est magnifique, ça. Parfait.
Ça me fera bien plaisir.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'immigrants dans la RMRC où vous êtes là? Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres immigrants là-bas?
Au début, non, mais là, je commence à voir beaucoup quand même d'Africains.
Ok, ok. Et
au début, je trouvais ça un peu... je pouvais le compter sur le bout du doigt, mais là, je commence à voir beaucoup d'immigrés par ici, quand même. Là.
Super, donc vous êtes moins seul.
Il y en a de plus en plus, oui.
Pendant le mois de l'histoire des Noirs, j'ai reçu un frère, Val d'Or, je crois. Ils ont créé un organisme là-bas d'intégration des immigrants. Puis il m'a dit qu'ils sont 300 à Val d'Or, ou je ne sais pas, c'est ça, Val d'Or, oui. 300. Moi, je m'attendais à moins que ça, là. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup d'immigrants qui vont là-bas aussi pour de l'emploi, oui. Tout ça, là. Fait que ça se développe de plus en plus.
Les gens commencent à. Parce qu'au début, tout le monde restait presque à Montréal et puis à Québec.
Oui.
C'est que les gens commencent à comprendre qu'il ne faut pas juste aller rester à la même place. On peut aller un peu plus... Il y a plus d'opportunités ailleurs que juste à Montréal ou à Québec.
Oui, tout à fait. Et vous en êtes l'exemple.
Ouais.
Vous en êtes l'exemple. Est-ce que, juste une question comme ça, je ne connais pas l'âge de vos enfants, là, mais est-ce que eux aussi commencent à avoir le goût de la terre, que la relève se prépare déjà, je ne sais pas?
Je ne peux pas dire qu'ils ont le goût de la terre, parce que ma fille, elle a 9 ans, et puis mon petit garçon a 7 ans.
Ah, ils sont encore très jeunes. Là.
Oui, mais ils adorent. Ma fille, elle, je vois qu'elle aime beaucoup venir jouer dans la terre avec moi, m'aider. Mais le petit garçon, des fois, oui, des fois, non. Des fois, il vient s'arrêter et puis dit, tu regardes, il me cause.
Oui.
Mais des fois, il arrive, il veut vraiment m'aider, même si ce que je fais, il n'est pas capable de le faire. Il veut vraiment m'aider, c'est que je suis obligée de laisser ce que je fais. Puis je trouve autre chose qu'il est capable de faire pour qu'il puisse travailler avec moi.
OK. Bon, mais peut-être que c'est un futur repreneur là, de votre entreprise. Là...
Mais là, je ne peux pas dire que oui, mais on va attendre... Je croise les doigts, mais on va attendre.
Il est encore très jeune. 7 ans, il est encore jeune. On va lui laisser le temps de grandir. Là, en préparant cette émission-là, j'ai vu que vous aviez un projet qui s'appelle Goûter à thé. Fait, bon, je ne sais pas c'est quoi. Je me dis, je vais lui poser la question. C'est quoi Goûter à thé? Et à thé, c'est quoi?
Goûter à thé, c'est une plateforme en Abitibi.
Oui.
Nous sommes bien entourés. Les producteurs en Abitibi sont tellement bien entourés.
Okay.
Ils ont créé pour pouvoir mettre nos produits en ligne. Fait que, si admettons que la semaine prochaine, on débute le marché, le 24, on débute le marché de l'amorce.
Oui.
Si j'avais des produits, je les mets en ligne. Fait que, il y a des gens qui n'ont pas le temps d'aller faire la file pour acheter au marché. Ils vont juste arriver, ils vont commander en ligne, ils arrivent, ils ramassent leur commande qui est déjà faite.
Ah, et, ok.
Ils retournent chez eux.
Ouais, ça permet de gagner du temps, là.
C'est ça. C'est que nous, ce qui nous facilite la tâche dedans, c'est que si on me commande peut-être des tomates, des concombres, des poivrons, des affaires de même en ligne, moi, je n'ai pas besoin de tout assembler. C'est que moi, j'arrive avec les 10 commandes de poivrons, les 20 commandes de tomates, ainsi de suite. Puis moi, je donne ça à Goûter à thé.
Oui.
Puis, eux, ils vont assembler le panier pour la personne. Ils vont regarder sur leur liste, c'est quoi la commande de la personne. Ils mettent tout dans le même paquet. Ben, la personne vient ramasser.
Ah, OK. Wow. Fait qu'il y a vraiment un écosystème là, qui vous accompagne comme travailleur, entrepreneur agricole. Là. Il y a vraiment un écosystème qui vous accompagne.
Nous sommes bien entourés. Ils font de tout ce qu'ils peuvent là, pour nous accompagner là-dedans.
C'est magnifique parce que de loin du Québec, quand on entend Abitibi, on entend travail dans les mines, tout ça. On ne s'attend pas à ce que le travail agricole soit si bien... développer, qu'il y a un écosystème comme ça qui favorise l'intégration des immigrants aussi. Alors ceux qui nous écoutent là, nos auditeurs, auditrices de Québec, Montréal, si vous voulez embrasser l'entrepreneuriat agricole, voilà, vous avez Madame Nakuyo qui est là, elle peut vous donner un coup de main, des renseignements, aller en région. Donc il y a des possibilités en dehors des grandes villes. Alors là, Madame, on arrive à la fin de l'émission. Là. Vraiment, je voudrais vous remercier beaucoup pour votre générosité parce que vous êtes très occupé, mais j'ai pu préparer l'émission avec vous. Aujourd'hui, vous nous donnez presque 30 minutes de votre temps. Depuis que vous êtes ici, j'imagine que les gens au Burkina Faso, vos parents, ont appris que vous avez une ferme, vous faites du pâturage, vous transformez les produits. Quels sont les échos que vous avez là-bas au Burkina? Qu'est-ce que les gens disent? Est-ce qu'ils sont fiers de vous? Est-ce qu'ils vont dire, mais celle-là, elle ne lâche jamais la terre, au lieu de faire autre chose, elle continue avec la terre? Qu'est-ce que les gens disent là de votre projet là?
Ma famille, j'ai fait la fierté de ma famille.
Ok.
Puis, parce que c'est ça, nous, il y a des fonctionnaires chez nous, il y a des ingénieurs agronomes.
Ok.
Puis, malgré que papa, il travaillait, il nous apprenait toujours à travailler la terre. On allait à l'école, mais on travaillait quand même la terre. Il nous a appris à travailler la terre. Fait que mes grands frères, aujourd'hui, ceux-là qui travaillent, même à la saison hivernale, ils vont travailler la terre pareil.
Mmh.
Fait que moi, je fais la fierté de ma famille, arriver ici, que je fasse de quoi de ma vie. Je ne suis pas juste assis dans le divan à regarder la télé et puis attendre qu'on... Mais je connais aussi des connaissances qui m'ont dit clairement que il faut être, je ne peux pas dire le mot ici, mais genre, c'est une insulte carrément. Pour,
ah ouais.
Comment on peut arriver au Canada et devenir producteur?
Ah oui, ils ne savent pas qu'au Canada aussi, il y a des gens qui font la terre, il faut bien manger, non? La bouffe ne tombe pas du ciel, là. Il faut faire la terre, il faut travailler la terre
c'est
aussi.
Ça, c'est ça, on me dit ça clairement comme ça, pas une fois, pas deux fois, beaucoup de fois.
Ouais.
Au début, je voulais me décourager un peu, mais je me dis, mais il y a un jour, j'étais assis avec quelqu'un que je connais, je venais de lui acheter une bière.
Ok.
Puis la personne me dit, ça faisait longtemps, et puis la personne me dit, mais qu'est-ce que tu veux, tu fais là-bas, je lui dis, tout, je dis, comment tu peux arriver là-bas et puis devenir producteur?
Ah donc là, vous étiez en vacances au Burkina et puis vous en parliez, oui, à quelqu'un là-bas.
Ça m'a choqué,
ouais.
Ça m'a choqué, je n'ai pas été gentil. J'ai dit, bah, t'as bien que tu bois.
Vous l'avez ramassé, comme on dit.
C'est l'argent de mon jardin qui l'a acheté.
Très bien, non mais c'est bien ça, c'est bien d'avoir répondu, bonne réponse.
Après, je me suis sentie mal, mais, ça faisait quand même un peu de coups que je recevais. Et puis là, je disais absolument rien, j'en sais pas. Mais je pense que c'est lui qui a pris les pots cassés.
Il l'a ramassé pour les autres.
Oui.
Mais c'est ça, les gens rêvent beaucoup, là, je veux dire, mais
ouais.
le travail de
mais
la terre...
Mais aujourd'hui, quand même, au début, ceux-là qui m'ont dit ces choses-là, me félicitent finalement, ils disent, ah ben... Mon affaire marche vraiment, on te félicite, c'est bien.
Le travail de la terre est un travail très noble. Hein. Je veux dire que ce soit au Burkina, au Tchad, au Québec ou aux États-Unis, le travail de la terre, c'est un travail très noble. Fait que je trouve que vraiment, ouais. C'est intéressant et moi, je suis très content que beaucoup d'immigrants ou même des gens de notre communauté africaine, haïtienne, embrassent la terre. Raison pour laquelle j'ai fait 3 émissions là-dessus, là, parce que d'abord, c'est
oui.
Un intérêt personnel. Moi, ça m'intéresse beaucoup. J'aime la terre. Puis je me dis, peut-être que ça va donner des idées aux gens qui hésitent. T'sais. On est ici, chez nous. On est aussi chez nous, ici. Là, il faut embrasser tous les secteurs d'activité possibles. Ne pas être cantonné à une activité.
La terre nourrit son homme, en fait.
Exactement.
Et
vous faites... En plus, ce qui m'a frappé aussi en faisant ces 3 émissions-là, les gens en région sont ouverts à découvrir d'autres produits aussi. C'est okra,
oui.
Le gombo, tout ça. J'ai parlé avec le frère d'Haïti, du Togo et vous. Mais ça veut dire qu'en région, les gens ne sont pas si fermés que ça. Ils sont ouverts à découvrir d'autres produits aussi. Puis j'ai remarqué que vous misez beaucoup sur la vente locale. Hein. Vraiment, c'est les productions locales, consommation locale,
oui.
Production, achat local. Fait qu'il y a des valeurs aussi derrière ce que vous faites. Alors, écoutez, moi, je suis très satisfait d'avoir réalisé ces 3 émissions avec vous. Et puis, je vous encourage fermement. Et j'incite les gens qui nous écoutent, peut-être, si vous passez par Abitibi, allez voir Madame Christine Dakuyo. Sinon, peut-être qu'elle pourrait vous inspirer. En tout cas, Madame, je sens que c'est une entreprise qui a de l'avenir, hein, devant vous, là. Je
pense
que, allez, vous commencez à faire la transformation. Peut-être que demain, vous allez créer une grosse une usine, une chaîne alimentaire quelque part à l'ouest du Québec. Je passerai vous voir, en tout cas.
Merci
beaucoup,
merci
ma sœur. Ça m'a fait vraiment plaisir. Encore, vraiment, vous êtes quelqu'un de très généreux. Vous êtes très occupé, mais vraiment, vous m'avez donné du temps. Je vous ai appelé, vous êtes montré disponible. Merci beaucoup de votre générosité. Vous êtes une femme de cœur. Vous êtes un bel exemple d'intégration en région. Bravo, madame. Merci beaucoup.
Merci à vous pour la considération. Merci.
Salut, au revoir.
Bye.
Mesdames et messieurs, vous êtes bien sur CKIA 88.3 FM. Brice, mais Brice, je sais pas si je t'ai pas donné la parole. Toi, tu es un entrepreneur. Peut-être que tu voulais poser une question à Christine. Mais c'était comment? Comment tu as vu ça là? Écoute, mais moi, elle m'a épaté. Là, c'est tellement inspirant cette dame.
Oui, surtout qu'elle actuellement, elle est seule.
Ouais, pour travailler, son.
Exactement.
Oui.
Manque d'emploi, manque de personnel et tout.
Ouais.
Et puis, je pense que ce que j'ai remarqué au niveau des trois entrevues qu'on a eues, c'est que tout le monde essaie de faire une production locale.
Ouais.
Seulement locale, produit de façon locale, avec de petites c'est pas surface, et puis livré aux alentours seulement.
Exact.
Personne, elle parlait de la demande tantôt, que la demande est tellement élevée qu'elle n'arrivait même pas à répondre à la demande de IGA ou bien Metro, des choses comme ça. Donc, ouais. Tu vois. Donc, c'est comme le business, il est là. C'est un secteur où beaucoup n'y vont pas. Mais il y a quand même la demande.
Oui, il y a les opportunités.
Il y a les opportunités.
Les gens qui nous écoutent, là, il y a les opportunités.
Ouais.
Puis, même si c'est une vente, une production à l'échelle locale,
ouais.
Ça marche.
Ça marche.
Ça rapporte des bénéfices. Rapporte.
Si, par exemple, quelqu'un fait la production, je ne sais pas, ça peut être à Saint-Émile ou bien à Charlebourg, à Beauport, ici, mais Métro, il ne va plus aller loin pour aller chercher.
Ouais.
Il va faire proche. Le frais de transport, ça va le réduire. Comme ça, il ne va pas vendre cher. Tu vois un peu.
Donc, très bon point, ça.
C'est ça, mais c'est juste que c'est dommage que ça soit toujours dans les régions, dans les municipalités très éloignées que la production se fasse et qu'on n'ait pas vraiment des gens proches de chez nous ou bien des terres ici pour élaborer ou bien des gens très motivés pour labourer des terres ici.
Je ne sais pas si l'enjeu, c'est qu'autour des grandes villes, peut-être qu'il y a manque de terres. C'est avec l'étalement urbain, les gens prennent les terres agricoles pour construire des maisons. Fait que je pense que peut-être le manque de terres, mais évidemment, ce que tu dis, c'est vrai. Hein.
Ouais.
Et même à Québec, tu vois le boom des jardins communautaires.
Ouais.
Les gens aujourd'hui veulent produire localement, consommer localement. Donc, il y a aussi ce retour à la terre. Là.
C'est ça.
Et donc, c'est ça. Dans les villes, même là, l'enjeu, l'intérêt est là, sauf que les terres manquent.
Ouais.
Mais
les terres sont éloignées.
Ouais. C'est, il faut aller loin, peut-être, pour
même
faire
si tu
ça.
Trouves des terres au bord de la voie. Tu vas voir, ils vont mettre, OK, construction.
Oui, les promoteurs, ils rachètent tout. Là.
Tu vois, ils arrachent tout.
Sinon, il faut aller, c'est pas moi, Donnacona, c'est un peu loin aussi. Là, avec, je trouve.
Mais
c'est que c'est intéressant, le secteur est porteur.
Oui, le secteur est porteur, il y a la demande, il y a les opportunités dedans. Tout est faut juste la motivation et puis les gens qui sont intéressés.
Oui, le début, comme tout le monde nous a dit, le début, c'est pas évident. Là. Il faut serrer la ceinture. Mais
il dit quelque chose, elle dit... si tu entres dans ce secteur, ne te dis pas je vais faire beaucoup d'argent.
Ouais.
Tu vois?
Faut aimer.
Il faut être passionné pour. Mais normalement, la terre de chez nous, quand on laboure la terre, nos parents, ils ont construit des maisons, ils ont fait des voitures avec la terre.
Ouais.
Mais si tu commences à labourer ici, tu t'attends au moins à avoir des revenus qui puissent peut-être te permettre de prendre une hypothèque, d'acheter ta maison. Pourquoi pas?
Mais après plusieurs années, je pense. Parce que là, maintenant, elle, après 7 ans. Je pense que là, commence à générer de l'argent. Là. Après 7 ans, elle a beaucoup de demandes, mais les débuts, ça ne va pas être évident, j'imagine.
Okay, ouais. Okay, ouais, c'est vrai.
Les débuts, ça va être difficile.
Beaucoup d'investissements au début.
Ouais.
Surtout la location de terre, le matériel, la
jachette,
tu vois, tout.
Puis gérer le climat aussi, tout ça, les serres.
Puis c'est saisonnier.
Oui, exact, ça aussi. Mais elle, c'est intéressant parce que là, elle transforme pour vendre en hiver parfois aussi. Ça, c'est intéressant, ça. Puis en plus, je trouve que moi, je suis vraiment très content là, de faire cette émission parce que ça ouvre des perspectives, évidemment, mais aussi ça ouvre des perspectives d'autant plus que avec la vague écologique, la consommation saine et locale, ben là, il y a quelque chose à faire. Là, maintenant, les gens veulent consommer local. Ils ne veulent pas des bananes qui viennent de Californie ou des avocats qui viennent d'Équateur.
Ouais.
Ils veulent consommer localement. Et il y a des produits tropicaux qu'on peut faire pousser ici en plus.
Ici,
on se disait, ah oui, mais peut-être sous le climat du Québec, on ne peut rien faire. Mais là, c'est possible.
C'est possible. C'est juste la volonté et d'aller découvrir la technique.
Oui, aussi.
Tu vois, il faut apprendre la technique parce que nous ne sommes pas dans les régions tropicales. Là, tu vois. Il faut apprendre la technique surtout, moi, je pense. Parce que pousser, je sais pas, du piment dans son jardin derrière la maison ou bien dans son petit jardin, il dit versus pousser du piment dans le, je sais pas, dans le champ, c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose, tout à fait.
Non, c'est pas la même chose. Ouais.
Parfait. Alors c'était intéressant. Alors c'est la troisième des trois émissions que nous avons faites avec les fermiers noirs et fermières maraîchères, etc. Donc peut-être que l'été prochain on va refaire ça, c'était très intéressant. Alors on va aller une petite pause et puis je reçois Armel Simeux, c'est un chercheur, un jeune doctorant de l'Université de Montréal qui a écrit une belle chronique là dans la revue, la dernière livraison de la revue Relations sur les coups d'État en Afrique. Guinée, Mali, Burkina Faso, Tchad, etc. Fait que, bon, je vais prendre 15 minutes pour en jaser avec lui après cette petite pause musicale. Vous êtes bien sur CKIA 88.3 FM à l'émission Dignité Noire, notre avant-dernière émission. La dernière émission, c'est lundi prochain. Alors, je me fais un petit plaisir, parce que moi, j'aime parler de politique. Alors, je me fais un petit plaisir pour parler d'un article qui est apparu dans la revue Relations, le numéro 817 de l'été 22. Ça s'appelle La Gratitude. La revue Relations, c'est une revue, je pense, créée par les jésuites ici au Québec. C'est religieux, mais pas tant que ça, je veux dire. C'est très laïque. Mais l'une, moi, je pense que c'est l'une des meilleures revues. Moi, je suis abonné depuis 2 ans et puis c'est tellement intéressant. J'ai publié un article là-dessus aussi. C'est des articles de bonne facture. C'est des militants, des chercheurs qui publient là-dedans. Et puis aujourd'hui, ben, on en reçoit un. On reçoit un chercheur qui a écrit un article sur la France-Afrique des coups d'État. C'est le frère Brice Armel Simeux. Comment allez-vous, monsieur Simeux?
Bonjour, bonsoir, bye. Très bien et merci de votre invitation.
Alors, juste pour vous présenter, là, donc vous êtes doctorant en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Vous êtes chercheur en résidence au Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation. Vous coordonnez le Centre d'analyse et de prospectives sur les Afriques, Cap Afrique, affilié au CIM. Et vous collaborez avec la revue Relations sur les enjeux liés aux dynamiques politiques en Afrique. C'est pourquoi vous venez de publier. Vous venez de publier dans le numéro de printemps de la revue Relations un article intitulé « La France-Afrique des coups d'État ». Alors, je suis avec Brice qui me posait la question. Il dit « Mais Simeux, là, c'est de quel pays ?» Moi, j'ai dit « Cameroun. Est-ce que j'ai raison ?»
Très bien, vous avez bien raison.
Bah, j'ai triché parce que moi, j'ai étudié au Cameroun, quand même. Je suis du Tchad, mais j'ai étudié au Cameroun. Fait que les noms camerounais, je connais un peu. Donc, vous avez publié un article, je rappelle le contexte. Depuis 2 ans, il y a eu pas mal de coups d'État, là. Il y avait un répit, là. On pensait que c'était fini, les coups d'État. Mais là, c'est revenu. On en a eu en Guinée, avec la Guinée de mon ami Diallo, Amadou Diallo, qui nous écoute, là. Donc, il y en a eu en Guinée. Après, c'est au Tchad, avec la mort de Idriss Déby. C'est son fils qui est monté en violation totale de la Constitution, qui prévoyait, c'est le président de l'Assemblée qui devrait prendre le pouvoir. Mais là, c'est son fils qui est monté. Ensuite, on a vu le cas de la Guinée, du Mali, un cas très emblématique de cette dynamique-là, parce que bon, c'est non seulement un coup d'État, mais un coup d'État aussi qui veut rebrasser un peu les cartes dans la sous-région en se séparant de la France et en embrassant par exemple la Russie. Et puis le Burkina Faso aussi, qui est passé comme du fil dans le beurre, hein, tranquillement comme ça là. Quoique on voyait venir quand même le coup d'État au Burkina Faso. Donc, vous questionnez sur la recrudescence de ces coups d'État et vous dites que vous voulez savoir, est-ce qu'il y a des facteurs structurants à l'origine des turbulences institutionnelles de ces coups d'État-là ? Donc, est-ce qu'il y a des facteurs structurants qui expliquent ces coups d'État ? Et vous vous demandez aussi si ces coups d'État sont des irruptions ponctuelles, signes de dysfonctionnement institutionnel ou des illustrations extravertues d'une crise latente et perpétuelle de l'État postcolonial. Là. Ah, des gros thèmes de sciences politiques. Là. Vous allez nous aider à comprendre tout ça. Donc, pour vous, là, est-ce qu'il y a des facteurs structurants derrière ces coups d'État-là ? Est-ce que c'est des choses anecdotiques ou c'est vraiment des symptômes d'un comme vous dites, là, d'un État postcolonial ? Expliquez-nous un peu ça. Qu'est-ce que vous avez trouvé là ?
C'est une très bonne question que vous posez avec raison, parce que la multitude des coups d'État qu'on observe, c'est une forme cyclique, hein, d'événements cycliques qui se reproduit au fil des années. Ce que j'observe, c'est que la structure des institutions qui font les États africains sont propices à l'émergence continue de ces coups d'État. Et que le fonctionnement et les rapports des États africains à ce qu'on appelle les ex-puissances coloniales, et en l'occurrence la France, est tel que on ne peut pas éviter ce type de coup d'État s'il n'y a pas de réforme structurelle des États africains. Je m'explique. Il y a deux niveaux d'observation que je fais. Le premier niveau, c'est que les institutions régaliennes africaines, et notamment les armées africaines, depuis les indépendances, ne se sont pas constituées pour le service de la souveraineté territoriale et nationale. Parce que pendant longtemps, à cause de ce qu'on appelle les accords de défense, la puissance coloniale, l'ex-métropole, se permettait de renverser les chefs d'État qui ne correspondaient pas à ses intérêts en fracturant l'armée. Et donc cette manière de fonctionner a fragilisé l'armée en tant qu'institution régalienne qui était capable d'assurer la souveraineté territoriale, quelles que soient les menaces. Donc, on est arrivé à des situations, que ce soit au Tchad, que ce soit au Togo, que ce soit en Côte d'Ivoire, où les armées n'ont pas une histoire de défense de la souveraineté nationale et donc de restauration de la stabilité de l'État au-delà des enjeux politiques ou des bagarres politiques. Donc, on a des armées qui sont au service ponctuel d'hommes d'État qui eux-mêmes sont au service parfois d'intérêts qui ne sont pas nationaux. Et c'est ça que j'observe dans la formulation historique même de nos États en Afrique. Donc on n'a pas des armées en fait qui sont au service des peuples. Et rarement dans des États on trouve des armées qui sont en osmose avec les populations. On a généralement des armées qui sont des institutions de répression et qui imposent la force du pouvoir en place jusqu'à ce qu'un nouveau pouvoir arrive et que le cycle recommence. Donc ce que j'observe, c'est que les accords de défense ont donné des privilèges d'intervention à la France, comme à d'autres puissances, notamment à la France, je pense que c'est surtout elle dont il s'agit pour le cas d'espèce. Il faut savoir que certains accords de défense, pour prendre le cas par exemple de la Centrafrique, permettaient à la France d'assurer la sécurité présidentielle. Vous voyez ? Donc la France formait les grandes élites des armées, mais assurait parfois elle-même la sécurité du président. Dans ce cas-là, vous pouvez bien imaginer que le président n'a pas beaucoup de marge de manœuvre lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts nationaux. Donc, il y a ce facteur-là endogène dans nos institutions. Il n'y a pas que les armées, parce que les accords ont couvert énormément d'aspects de la vie des États, y compris même les aspects monétaires. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on a 14 pays qui importent leur monnaie. En Afrique, 14 pays francophones importent leur monnaie.
Le fameux franc CFA qui est frappé.
Le fameux franc CFA, c'est quand même un scandale en 2022 de savoir qu'on a 14 pays dont la monnaie est imprimée par une imprimerie monétaire en France et qui fait 40% de son chiffre d'affaires, c'est cette activité. Donc, que cela ne change pas, on devrait se poser quand même la question. Donc, lorsque vous avez des institutions qui sont en fait des institutions sous tutelle, parce que quand on parle d'indépendance, il faudrait mitiger le mot. Dans la réalité, on est dans des souverainetés sous tutelle. C'est-à-dire que les institutions de défense et les institutions monétaires ne sont pas à la disposition du pouvoir de l'État en Afrique. Parce que ces institutions ne sont pas à la disposition des pouvoirs élus ou imposés de toutes les façons. Donc c'est ça que j'observe d'abord au niveau endogène. Maintenant, au niveau plus exigeant, oui, vas-y.
Mais les coups d'État, justement, je suis d'accord avec vous, là. Les coups d'État qu'on a eu dans les années 70 respectent ce schéma-là. Mais les derniers coups d'État que nous avons eus, là, est-ce que ce n'est pas justement des coups d'État qui s'inscrivent en rupture avec cette dynamique-là? Parce qu'au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, bah, c'est des coups d'État qui sont faits au nez, à la barbe de la France. Et dans le cas du Mali, la volonté de rupture est clairement affichée. Donc, c'est comme si c'est des coups d'État version 2.0, quoi, je veux dire, c'est autre chose là. Et en plus, c'est des coups d'État soutenus par la population à la base. Donc, est-ce que ces coups, les nouveaux coups d'État dont on parle ne s'inscrivent pas en rupture avec ce que vous venez de dire là, par exemple?
Vous faites bien de le souligner.
de dire qu'il y a un soutien populaire parce qu'il y a un désir de rupture d'une jeunesse de plus en plus consciente des enjeux stratégiques de l'Afrique. On a une jeunesse éduquée, ce qui n'était pas le cas dans les années 60. Et c'est peut-être ça la problématique de fond, que dans certains salons de décision en Occident, on ne comprend pas que la jeunesse africaine d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la jeunesse africaine des années 60. On a une jeunesse africaine qui est consciente des enjeux panafricanistes, qui est consciente de la position et de la richesse de son continent, qui veut prendre son avenir en main. C'est une jeunesse éduquée, mondialisée, ouverte sur le monde. Et donc, le rapport à l'information et même le complexe colonial s'est complètement effrité. Et ça n'est pas encore bien intégré dans les consciences des décideurs en Occident. Quant au coup d'État dont vous parlez, la question c'est comment est-ce que des pouvoirs dits démocratiques en arrivent à être renversés par un système qui est historiquement caractéristique de ces États. C'est-à-dire, on a par exemple le Mali, c'est un pouvoir dit démocratique qui avait été renversé. Mais parce que la logique de fonctionnement de ce pouvoir démocratique, on le sait, on a beaucoup reproché à Ibrahim Boubacar Keïta d'avoir beaucoup signé des accords inadmissibles avec la France.
Ouais,
si vous lisez les accords que le président Keïta a signés dans le cadre de l'intervention de la force Barkhane, mais c'est quand même ahurissant. Le Mali, non seulement est responsable de tous les actes que posent les soldats français, parce que ceux-ci sont protégés par une immunité que le Mali est censé d'assurer, Il y a énormément de dysfonctionnements comme ça qui font qu'aujourd'hui que dénoncent par exemple les poutistes, c'est que les accords qui avaient été signés sur Ibeka étaient des accords qui étaient contre la constitution malienne. À y regarder de plus près, ils n'ont pas complètement tort. Parce que d'ailleurs, les enquêtes qui ont été menées par les médias français eux-mêmes ont passé au crible de ces accords, et c'est quand même ahurissant ce qu'on découvre à l'intérieur. Donc, on a des pouvoirs qui sont peut-être parvenus, on va dire, au pouvoir, c'est-à-dire des personnalités comme Ibeka, qui étaient très appréciées avant d'être élues, qui arrivent à des positions de pouvoir, mais qui ont besoin toujours de rapports, on va dire, incestueux avec des réseaux de pouvoir dans la métropole. Et dans le cadre de ces rapports incestueux, il y a des accords comme celui dont je viens de parler, les accords de défense, qui, il faut le dire, dépossèdent la constitution d'un certain pouvoir. On va quand même signer certains accords qui entrent en contradiction avec certaines dispositions de la constitution malienne. C'est ce que dénonce aujourd'hui, par exemple, le pouvoir de transition au Mali.
Alors, donc, juste pour nos auditeurs, là, je vais lire un de ces accords là, qui ont été signés dans les années 70. Là. Alors, je vais vous citer, je cite votre article. Là. C'est tellement pour que les gens comprennent ce dont on parle. Là. C'est la bêtise de ces accords, là, je veux dire. Alors, une situation de vassalité institutionnelle illustrée par l'article 4 de l'accord de coopération post-indépendance entre la France et la Centrafrique, le Congo et le Tchad nouvellement indépendants, qui stipule ceci, tenez-vous bien. Il stipule que ces pays accordent à la République française une préférence pour l'acquisition des matières et produits stratégiques obtenus sur leur territoire et s'approvisionnent par priorité auprès d'elle, de la France donc, en ces matières premières et produits. Ils facilitent leur stockage pour les besoins de la défense commune et lorsque les intérêts de cette défense l'exigent, ils, donc ces pays, prennent les mesures nécessaires pour limiter ou interdire leur exportation à destination d'autres pays. C'est du n'importe quoi. Donc, en fait, c'est une colonie. La colonie continue, dans le fond. Là. C'est, la France vous interdit de vendre vos produits à d'autres et vous oblige à acheter chez elle vos produits, les produits dont vous avez besoin. C'est un peu ça, ce qui se passe, là.
Ben, c'est ce qui se passe. C'est ce que stipulent les accords qui n'étaient pas lus, qui n'étaient pas connus. Parce qu'il faut bien dire que la France-Afrique et les rapports incestueux entre les réseaux français, France-Africains et les pouvoirs africains, qui ont également une oligarchie locale très corrompue, c'est l'omerta, c'est qu'on n'en parlait pas.
Mais c'est pas discuté, c'est pas discuté dans l'opinion publique.
Donc, oui. Ni dans les salons intellectuels en Occident, où vous ne rencontrez pas un seul Québécois qui comprend ce qu'on est en train de parler. Donc, la France-Afrique, les rapports difficiles, je dirais même bizarres à la limite, entre les réseaux de pouvoir en France et les régimes autoritaires en Afrique ne sont pas du tout connus. On ne sait pas, par exemple, que il y a certains régimes qui ont été installés de fait par la France. C'est-à-dire, ouais, vous avez des démocraties qui installent des dictatures parce que ces dictatures sont au service de leurs intérêts. Et ça, personne n'en parle. Et aucune démocratie ne dénonce. Vous n'entendrez jamais l'Allemagne dire à la France, mais vous soutenez le coup d'État au Tchad, ce n'est pas normal. Vous n'entendrez jamais l'Italie dire à la France, mais vous avez intervenu en Côte d'Ivoire ou en Libye, ce n'est pas normal. Non, les démocraties ne dénoncent pas les méfaits des démocraties. Les démocraties se taisent.
C'est les intérêts qui comptent. Hein, d'après, voilà. C'est les intérêts qui comptent. Et allant jusqu'à même à des situations paradoxales où la France va installer, adouber le coup d'État au Tchad, et dénoncer le coup d'État au Mali, c'est un peu bizarre quand même.
Voilà.
Mais donc là, selon vous, lorsque la France-Afrique ne crée pas, donc la France-Afrique, c'est la relation néocoloniale entre la France et les pays africains, donc lorsque la France-Afrique ne fabrique pas des coups d'État pour se perpétuer, sa dénonciation génère aussi des coups d'État, là, c'est ce que vous dites. Là.
Exactement. Merci pour ce résumé. Pour ce résumé. Donc, non seulement elle génère elle-même les coups d'État, la France-Afrique fonctionne par un système de coups d'État parce que la France-Afrique est une forme de délocalisation du fait colonial.
Oui.
C'est-à-dire vous avez des dirigeants qui vont reproduire la mentalité du colon d'hier sur les peuples sur lesquels ils ont autorité. Tout simplement parce qu'ils sont au service d'intérêts de l'ex-colondière ou des réseaux de pouvoir actifs chez l'ex-colondière. Donc ils reproduisent et vous avez comme ça des systèmes policiers, militaires qui sont extrêmement repressifs.
Ouais.
Donc on a des démocraties mais qui n'aiment pas les démocraties dans les colonies.
Tout à fait.
Mais qui ont un discours, on va dire, de coloration démocratique ou de respect des droits de l'homme sur la scène internationale, qui est un discours de pure communication.
Ouais.
Mais quand on voit les actions de ces dites démocraties chez les ex-colonies, on voit que leur action consiste à perpétuer, à soutenir des systèmes autoritaires, tant que ces systèmes autoritaires préservent leurs intérêts économiques et financiers.
Donc,
c'est pourquoi
ce que vous dites est intéressant, le fait que nous-mêmes, nous perpétuons le système colonial. Je me dis, tu sais, François Fanon disait ça dès 1961, dans les années de la Terre. Là. Il nous prévenait de faire attention. T'sais, il dit, les indépendances, ce n'est pas la fin de la colonisation. On peut avoir l'indépendance, mais la colonisation continue et sera perpétuée par nous-mêmes. Mais j'ai l'impression que nos élites n'ont pas lu les années de la Terre. Quoi. Je me dis, François Fanon nous a prévenu il y a 60 ans, 50 ans. Mais c'est comme si, voilà, on perpétue toujours le même système, on n'arrive pas à opérer cette rupture-là, n'est-ce pas? Et là, vous, votre deuxième explication, c'est les facteurs extravertis ou extra-machin,
ouais.
C'est ça? Vous pouvez nous parler un peu de ça, là, rapidement? Il nous reste
Je prendrai juste des exemples les plus connus et les plus patents. C'est que, vous savez, au niveau de la monnaie, par exemple, au niveau de la monnaie, très simplement, quand vous ne pouvez pas décider de la monnaie qui circule dans votre pays en termes de masse monétaire, quand vous ne pouvez pas prendre des décisions souveraines sur votre monnaie, mais vous n'avez pas de souveraineté en réalité. C'est le cas de beaucoup de pays africains. Par exemple, quand la France est capable de décider de bloquer toutes les transactions monétaires au Mali, tout simplement parce que c'est elle qui fait circuler la monnaie au Mali.
Ouais.
Si la France décide par exemple du montant d'argent qu'elle donne au Mali pour faire vivre son économie, ça, les gens doivent le savoir. Donc, et c'est important. Et 50% de l'ensemble des revenus issus du commerce extérieur des pays dits France CFA, ben, ils le virent en France pour avoir la stabilité du rapport du change avec l'euro.
Ouais.
Donc, lorsque vous avez des États qui sont incapables de mener une politique monétaire, c'est-à-dire incapables de prendre des décisions de souveraineté sur leur économie, on ne peut pas appeler ça des États souverains.
Et rappelons, la parité fixe entre France CFA et puis le franc français hier et l'euro aujourd'hui, ça ne favorise pas les exportations africaines. Parce que
ça ne favorise absolument pas. Et l'autre chose, nous sommes dans une situation aujourd'hui mondiale de crise inflationniste. Des États comme le Canada sont capables de prendre des mesures, sont capables de lancer des plans de relance, financés avec la Banque du Canada. C'est impossible.
Oui, les pays africains ne peuvent pas faire ça. Non, ça nous fragilise face aux crises. Hein.
Parce qu'ils n'ont pas du tout la mainmise sur leur monnaie.
Dites aux gens, que les gens comprennent bien, là, c'est-à-dire 50% de la masse, je pense qu'elle fait quoi, 10 000 milliards, quelque chose comme ça là,
de 50% de l'ensemble des revenus du commerce extérieur.
50% des recettes de commerce extérieur des 14 pays francophones de l'Afrique
sont déposées
dans le compte de trésor en France. Et la France utilise ça pour construire les routes, financer ses entreprises. Et non, nous, on n'a rien.
La France l'utilise pour faire des placements.
En fait, c'est du vol. C'est du vol institutionnalisé. En fait, c'est ça, là. Si quelqu'un fait ça, on le met en prison. La France fait ça avec la complicité des élites africaines.
Mais ce sont des accords.
Et alors que les gens meurent, il y a les hôpitaux, on a besoin d'investir dans les hôpitaux, on a besoin d'investir dans l'industrie, on n'a pas de capitaux pour investir, mais les capitaux qui appartiennent aux pays africains dorment dans les comptes d'opération en France et la France utilise pour soutenir ses entreprises. Mais écoute, on est au 21e siècle. Chaque fois que j'entends ça, je dis c'est pas possible. On est au 21e siècle. Ouais. Et ça se passe encore.
Mais oui, il y a eu des réformes pour la zone BCAO il y a un mois, où ils ont décidé de virer ces 50%-là dans les guichets de la BCAO. De la BCAO, oui, mais il y a une arme qui reste forte dans les mains de la France, c'est la garantie.
Ouais,
c'est la garantie, c'est-à-dire que c'est la France qui garantit la stabilité
de cette monnaie-là.
Ça montre le caractère enfantin des États africains. Nous n'avons pas encore des États souverains, il faut le savoir.
Il faut renverser, donc, la solution passe par le renversement de ces élites-là, parce que franchement, ces élites-là, elles s'entendent bien avec les élites françaises. Il faut, moi je pense qu'il faut passer par un renversement des élites. Que des élites.
Oui,
en fait, les élites nationalistes qu'on avait renversées au début des années 60 là, doivent revenir au pouvoir. C'est la solution. Il me reste une minute, mais j'aimerais vous poser une petite question quand même. Parce que là, vous souleviez un aspect structurel à l'effet que l'État-nation est inadapté en Afrique. Moi, je suis anti-État-nation. Alors, moi, je trouve que le problème, c'est pas que l'État-nation est inadapté à l'Afrique. Le problème, c'est l'État-nation lui-même. Tu sais, moi, je pense que l'État-nation, cette fiction de faire correspondre un territoire à un peuple est une fiction. Les sociétés politiques sont par définition plurielles. Donc, l'État-nation, même en Europe, ça ne marche pas, là, je veux dire. Alors, c'est ça, j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que le problème, c'est pas tant l'inadéquation de l'État-nation à l'Afrique que l'inadéquation ontologique même de l'État-nation comme concept politique? Qu'est-ce que vous en pensez? Une minute, rapidement.
Oui, on pourrait en reparler plus tard, là. Vous avez raison dans votre...
CKUT 90.3 FM, Montreal.
Pledge resistance.
What's up? This is Saul Williams chilling here in Montreal, here on CKUT.
We pledge alliance with those who have undergone attack for voicing opposition to the war.
The following is a previously broadcast program.